Et tiens, on va commencer ce matin avec un petit tour de nos commissaires rapides au sujet de l'entrevue de Marie-Pierre Morin hier à Tout le monde en parle. D'abord, Nathalie, t'en as pensé quoi?
Bien, je l'ai trouvé vrai, authentique, crédible, extrêmement sincère. Jamais elle n'a cherché à se défiler par rapport à ce qu'elle a, aux gestes, aux paroles qu'elle a posées dans le passé. Elle est prête à on l'a entendu, elle dit « je suis prête à m'asseoir avec les gens que j'ai blessés, je suis prête à m'excuser ». Elle a admise que ça fait 9 mois là, qu'elle ne boit plus. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant comme entrevue et je ne comprends toujours pas cette déferlante sur les réseaux sociaux la concernant. Je comprends qu'il y a eu des victimes. On a laissé beaucoup la place aux victimes dans toute cette histoire-là. Mais maintenant, je pense que son droit à elle, le plus légitime, c'est de reprendre, comme elle l'a dit, une vie normale et de travailler à nouveau. Elle dit que c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Alors moi, j'ai trouvé ça très bien comme entrevue.
Luc?
Ben, on n'aura pas un gros débat. Je pense la même chose. Il faut que l'offense soit dimensionnée avec le crime. Là. D'ailleurs, quand le mot crime est trop fort, évidemment, parce que rien de ce qu'elle a fait aurait pu être sanctionné par la loi. Ce sont des mots, des gestes dérangeants, mais il n'y a rien là-dedans qui aurait pu être sanctionné par la loi. Alors, qu'est-ce qu'elle a payé? Combien elle a payé pour ça? Ben, elle a payé un retrait de la vie publique, puis de son travail, puis de ses contrats pendant plus d'un an, et aussi d'être stigmatisée. Et là, je pense que c'est intéressant ce qu'elle fait. Elle transforme ça en message d'intérêt public. Voici ce qui m'est arrivé. Arrangez-vous pas pour que ça vous arrive. Alors, là-dedans, je vois juste du positif, puis je pense qu'il est temps de tourner la page.
Parfait. Alors, parlons des négociations dans le secteur public. M. Legault qui a dit hier, j'interviens, puis je vous donne 2-3 semaines, il faut régler ça. Nathalie.
Ça ressemblait au dernier appel avant l'embarquement, lorsque j'ai vu la conférence de presse hier. Généralement, lorsqu'un premier ministre s'implique dans les négociations du secteur public, c'est que c'est le dernier droit, puis on veut effectivement donner un dernier coup pour régler. Ce qui m'a étonné, c'est que sur 42 tables, il y a seulement 2 ententes qui ont été convenues, donc 2 tables sur 42 de régler. Mais on comprend pourquoi le premier ministre a fait ce qu'il a fait hier, parce qu'il veut régler ce dossier avant la fin de la session parlementaire qui va se terminer quelque part à la mi-juin. Donc, il lui reste au calendrier à peu près 6 semaines pour convenir d'une entente avec les employés du secteur public. Et ça veut dire, lui, il a dit, 2-3 semaines. Mais évidemment, il s'est donné un peu de marge de manœuvre. Alors, lorsqu'on entendait les représentants syndicaux, encore ce matin à ton micro, Sonia Lebel, José Scalabrini, on a l'impression qu'on est encore à des années-lumière d'un règlement, mais ça peut aller très vite dans ce genre d'opération. Et ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a une nouveauté dans cette négociation et des gains importants, entre autres pour les enseignants, membres de la Fédération autonome de l'enseignement, un rattrapage historique. Moi, je suis celle qui a plaidé pour ce rattrapage. Je trouve ça extraordinaire maintenant qu'on reconnaisse à sa juste valeur le travail des enseignants. Du côté des préposés aux bénéficiaires aussi, je me réjouis de voir les préposés aux bénéficiaires en CHSLD voir leurs conditions salariales augmenter. Mais, et si je l'ai appris ce matin, Paul, avec l'entrevue que tu as menée avec Sonia Lebel, il semblerait que ce n'est pas la même chose pour les préposés dans les hôpitaux.
Il y a une différence. L'augmentation à 26, qui est actuellement, ce sont des primes combinées, mais il va y avoir un taux horaire différent entre le préposé à l'hôpital et le préposé ou la préposée dans un CHSLD.
Bien là, il me semble qu'il y a un écueil, là. Je ne sais pas comment ils vont y arriver.
Et là, ils chicanent entre eux autres, là, parce qu'ils disent que c'est plus tough, puis il y a plus de postes à combler, puis c'est plus dur à trouver dans un CHSLD. Puis il y a des gens des hôpitaux qui disent que c'est écœurant. On va aller. Tu sais, là, c'est comme.
Oui, mais peut-être qu'à cette négociation-ci, on n'arrivera pas à trouver la voie de passage, peut-être à la prochaine négociation, mais clairement, c'est un dossier pour lequel le premier ministre veut régler d'ici la fin de la session parlementaire.
Luc?
Ben écoute, le premier ministre a été stratégique. Il a divisé. La perception qu'on a des syndicats, d'une part, a toujours été divisée. Il y a toujours eu plus de sympathie pour les professeurs puis pour les infirmières. Il a appuyé sur ce bouton-là en leur donnant beaucoup. Il réussit à mettre l'opinion publique de son côté. Et là, les leaders vont bien s'apercevoir qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour continuer des moyens de pression, en tout cas, certainement pas pour une grève. Mais ils vont le faire peut-être quand même, mais le résultat risque de pas être là. Alors, oui, les gains sont formidables pour 3 groupes. Les nouveaux enseignants, 18%. Les préposés aux bénéficiaires, là, tu dis 26%, moi j'avais noté 23%.
C'est 23, mais c'est 26 $. Là.
Ah, OK, d'accord, ouais. 23%. Et 14 000 de plus pour la santé. Ce sont des gains qui vont faire la différence pour ces fonctions-là, et c'est génial, et c'est historique, et c'est formidable pour les années à venir, parce qu'après ça, il va y avoir les augmentations normales qui vont s'ajouter à ça année après année, à partir de dans 3 ans. Donc, un beau règlement. Sauf que les syndicats, il y a 550 000 employés de l'État. Et dans les autres domaines, ils ont raison de dire que ce n'est pas avec 5% sur 3 ans qu'ils vont régler le problème de valorisation de l'emploi dans la fonction publique. Il y a un écart de 8 à 9% pour l'ensemble des fonctions, 30% dans certaines fonctions, par exemple les fonctions de maintenance, électricien, pompier, etc. Ils n'arrivent pas à attirer des jeunes. Les jeunes repartent après 3 ans. Le cas de la DPJ. La DPJ, on en a-tu assez parlé, la DPJ? Il manque de monde, il manque de monde, il manque de monde. Là, on leur donne 3,5%. Mais c'est temporaire, ça annule le 1,5% temporaire qu'ils ont eu au début de la pandémie. Puis là, on apprend que le 2% qui reste, il va tomber en 2023. C'est pas comme ça qu'on va faire, on va restaurer la DPJ. Alors, moi, je pense que c'est de la stratégie. Il a bien fait, il a bien messé sa stratégie. Mais maintenant, est-ce que l'État va fonctionner avec cette convention collective-là?
Oui, mais Luc, est-il, le gouvernement ne peut pas régler tout d'un coup? Il faut juste se rappeler que c'est la troisième offre que dépose au gouvernement. On met 4 milliards de plus sur la table. C'est quand même beaucoup d'argent. J'entendais François Legault hier dire, puis il a raison, là, il est premier ministre. Il dit, moi, là, je gère pour tous les contribuables québécois. Mais en même temps, je me dis, si je suis du côté syndical, moi, je regarde le 6 milliards qui va arriver d'Ottawa tantôt là, pour la compensation pour la création d'un programme national de garderie. Je regarde aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là, le 30 avril dernier, là, 1,8 milliard de moins de déficit. Alors là, les syndicats doivent se dire, attends une minute, ils nous disent qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre, mais il y en a peut-être des petites marges de manœuvre encore. C'est sûr que dans ce type de négociation, le gouvernement a toujours une carte cachée dans sa manche pour donner le coup final. Et moi, je pense qu'on va y arriver parce que la loi spéciale, ce n'est pas une option actuellement, même si François Legault s'est fait questionner là-dessus. Pourquoi? Parce que si François Legault privilégiait cette option-là, ce recours ultime à une loi spéciale, ça porterait ombrage à tous les gains importants, historiques, qui ont été faits, entre autres, pour les enseignants, pour les préposés aux bénéficiaires. François Legault a fait de l'engagement, entre autres, des enseignants, du rattrapage historique salarial, un de ses engagements durant la dernière campagne électorale. Alors, tu sais, ça laisserait une drôle d'impression. Mais en même temps, Luc, José Scalabrini l'a dit un peu plus tôt ce matin, il a dit, nous, dans l'année prochaine, on se remet au travail pour la prochaine convention collective. Mm-hmm. Fait que c'est vrai, tu peux pas tout régler.
Non, c'est clair.
Mais en même temps, le gouvernement a décidé éducation-santé cette année.
Bon, écoute, c'est remarquable, on va le prendre, puis c'est magnifique. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs au début de la négociation. Hein. Puis là, c'est le logo qu'on connaît, là, c'est-à-dire, il dit quelque chose, puis il se passe plein d'événements, puis après ça, il fait la même chose qu'il avait dit. C'est-à-dire qu'il prend pas compte, de tout ce qui s'est passé entre-temps, là. Et c'est un petit peu.
Est-ce que tu peux préciser ta pensée?
Ben, regarde, en octobre 2019, il avait dit, on va donner plus d'argent aux préposés bénéficiaires, on va donner plus d'argent aux enseignants en première année, puis on va le prendre à partir d'une compression qu'on va exercer sur les autres postes. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais il ne prend pas compte d'un paquet de pénuries qu'il y a au quotidien puis qu'on a vu apparaître depuis octobre 2019 dans plein de domaines.
Il promet 14 000 emplois de plus dans le secteur de la santé.
Oui, mais je te parle des autres pénuries. Parce que c'est vrai que ça frappe. Tu sais, les médias, on est comme ça, on parle tout le temps des mêmes affaires. Puis il y a des choses dont on ne parle pas. Comme par exemple, hier, il y avait M. Robert qui était à Tout le monde en parle, puis qui parlait. Ils ont demandé, mais pourquoi est-ce que le MAPAC se réveille pas, tu sais? Louis Robert, comment ça se fait qu'il y a 3 fois, 4 fois plus d'engrais qui sont mis sur les terres du Québec que l'Ontario qui est juste à côté? On parle pas du Vietnam, là, c'est l'Ontario, c'est Monaco. Il dit qu'à vue d'avion, tu vois la frontière entre le Québec et l'Ontario parce que le fleuve devient tout sale à partir du Québec à cause des engrais. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de monde au MAPAC. Pour penser à des nouvelles stratégies puis pour influencer les agriculteurs. La DPJ, on en a parlé. Les autres inspecteurs dans tous les domaines. En environnement, on ne fait plus l'inventaire des lacs aux prises avec des algues bleues. On le fait plus. Les propriétaires le demandent puis on le fait plus. Dans plein de domaines, on dit, tu vois, dans nos sujets qui s'en viennent, là, dans toute l'année, on va dire, ah, il manque de monde. Ah, il manque de monde. Ah, il manque de monde.
T'as raison de dire,
on peut pas donner tout à tout le monde. Sauf c'est que t'as aussi raison de dire, attention, il vient de dire que son déficit est 1,8 milliard de moins que prévu. On vient de redonner 1 milliard pour les permis de conduire. Je sais qu'il y a une loi qui nous oblige à vider la caisse, mais on aurait pu modifier cette loi-là. Dans 2 semaines, on va apprendre le projet le plus cher de l'histoire du Québec qui va être déposé sur la table. Il y a la taxe scolaire à 800 millions qui a été abaissée. Il y a le refus de faire une modulation des impôts sur la valeur ajoutée. Pas sur la valeur ajoutée.
Mais c'est comme ça, Luc, qu'un gouvernement, tu sais, c'est comme ça établit ses priorités.
Oui, je sais, mais cette histoire de dire On n'a plus d'argent, toi, chose. Ouais, cette année, on est serré. Puis après ça, il fait ses projets. Ben non, t'es pas si serré que ça.
Non, mais tu peux pas, c'est ça, mais c'est une question de priorité. Je veux dire, là, il y a déjà 4 milliards de dollars qui étaient mis sur la table. Avoue que c'est quand même pas mal d'argent.
Oui, c'est vrai.
Et puis encore des problèmes à régler. La disparité, tu l'as dit, des emplois de le secteur public puis le secteur municipal, par exemple. Les salaires qu'on verse un ingénieur dans le secteur privé puis dans le secteur public. Mais en même temps, je me dis, bon, ben, tu sais, c'est comme une marche à la fois. Puis cette convention-là va permettre de faire progresser certains types d'emplois dans la fonction publique. Il y a des gains appréciables qui vont se traduire pour plusieurs milliers d'employés. Et je me dis, bon, ben écoute, le reste, la prochaine négociation, ça sera autre chose. Avec 550 000 employés de l'État, Luc, c'est clair que tu ne peux pas tout leur donner.
J'ai une question à te poser. Toi qui as beaucoup d'expérience, penses-tu que la prochaine convention collective, ça va être autre chose? Tu ne penses pas qu'il va encore donner à ceux qui font le plus de bruit dans le public, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'impact dans le public, puis qui va passer en dessous de la couverte beaucoup de postes qu'on ne voit pas au quotidien, puis qui sont
importants?
Moi, je
te dis, Luc, la réforme de la DPJ, ça va falloir que le gouvernement passe à l'action, là, clairement, parce que j'entendais une avocate là, dire hier, ben, il faut faire le ménage, il y a trop de bureaucratie pour les intervenants, trop de papiers à remplir. C'est la même chose pour la santé. T'sais, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à accomplir. Alors, je me dis, j'ai bien hâte de voir comment cette négociation va se terminer, mais lorsque le premier ministre prend la parole, le message est clair pour tous les chefs syndicaux. C'est comme on a intérêt à s'asseoir à la table parce que le grand boss veut régler.
En tout cas, excuse-moi, mais juste pour terminer,
oui, quand tu dis... En conclusion, là...
Nathalie, quand tu dis une marche à la fois, là, si j'étais le syndicat d'autres fonctions que les enseignants et les infirmières, j'aurais l'impression de monter un escalier mécanique à l'envers. Puis à chaque fois que tu appuies sur la marche, elle disparaît, Simonac.
Hey,
on s'arrête pour la pause et au retour, on va parler de la manif et je peux vous dire qu'on a foutu le bordel entre préposés bénéficiaires d'hôpitaux et de centres de soins de longue durée. Je travaille plus qu'eux autres, puis c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des petites tensions. Ça, comme des rapports entre Mme Scalabrini et M. Mallette, à ne peut-être pas inviter au même party. On y va avec l'autoroute des Laurentides.